Des pneus de SUV dégonflés, des jacuzzis lacérés, des portraits du président de la République décrochés, le cours de certains grands événements sportifs entravés. Et pas plus tard qu'hier, les activistes bloquent le terminal 1 de l'aéroport du Bourget, empêchant les ultra-riches d'embarquer dans leur jet privé. Depuis quelques années, en France comme à l'étranger, les actes de saccage ou de vandalisme, selon certains, à l'encontre de biens jugés anti-écologiques se multiplient. À la croisée de l'action directe et de la décroissance civile, de la désobéissance civile, ces pratiques nous interrogent et sur le plan de la morale et sur le plan juridique.
Ah, qu'est-ce qui se passe? Une manifestante qui vient de s'attacher là au filet, au pied du poteau.
La jeune femme voulait agir contre l'inaction climatique du gouvernement.
Hier matin en région parisienne, ce groupe s'introduit par effraction sur un terrain de golf, étale de la terre et des légumes sur le green pour dénoncer la consommation d'eau des golfs en période de sécheresse.
Du sabotage, voici les signes apparents. Un trou de 2 cm de diamètre, des copeaux de plastique et une vidéo prise par cette caméra de surveillance.
On a donc un individu qui est en pleine nuit et par effraction nous a donc saboté le jacuzzi.
Les SUV nous pompent l'air, nous les désarmons.
Pour sauver la planète, geste numéro 1, dégonfler les pneus des SUV.
Avec toi, nous allons mettre un joyeux bordel.
Les militants n'ont pas hésité à décrocher les portraits officiels dans des mairies, 130 au total. La police est à la recherche de ces portraits. Certains décrocheurs ont dû s'expliquer devant la justice pour ce vol.
Et pour parler éco-sabotage, je reçois ce matin Xavier Sauvignet. Bonjour.
Bonjour, Quentin Lafay.
Vous êtes avocat au barreau de Paris. Avant tout, une question, comment expliquer la multiplication de ce type d'acte? Quel est le discours de fond, la justification au fond de celles et ceux qui le pratiquent?
Alors la justification, c'est la leur, c'est l'urgence climatique qui s'en vient et donc la nécessité de poser un certain nombre d'actes qui parfois sont illégaux au nom de cet intérêt supérieur. C'est la définition même de la désobéissance civique qui est un acte illégal, individuel ou collectif qui s'inscrit dans une démarche politique au nom d'un intérêt supérieur. C'est la tension qui existe entre légitimité et légalité.
La dimension illégale de ces actes, elle est totalement assumée, revendiquée. Est-ce que c'est pour vous quelque chose de nouveau dans le militantisme climatique ?
Alors, c'est pas quelque chose de nouveau dans le militantisme en général. C'est une figure très ancienne en réalité. C'est la figure d'Antigone dans la mythologie de la légitimité contre la légalité. Et chez les écologistes, ce n'est pas nouveau non plus. Quand on pense, par exemple, aux faucheurs de GM, quand on pense au démontage
du McDonald's
fast food, exactement, par José Bové. Donc c'est quelque chose d'assez récurrent et alors j'allais dire parfois qui a une application directe et matérielle sur des objets, et puis parfois ça peut avoir, il peut y avoir, si vous voulez, on opère une translation entre légitimité et légalité. La légalité devient légitimité. Alors, c'est pas dans le champ des écologistes en général, en particulier, mais c'est plus, je pense, par exemple, au mariage homosexuel avec le maire de Bègles en 2004, Noël Mamère, qui noue une union homosexuel et avec donc en posant un acte illégal de ce point de vue-là et 10 ans après, en 2014, le mariage pour tous intervient. Donc vous avez cette translation qui peut s'opérer entre les deux. Alors pour les écologistes en général, c'est effectivement la préservation du vivant qui est leur intérêt supérieur et qui s'oppose à l'inaction gouvernementale et à l'organisation du système tel qu'il l'est et auquel il s'oppose. Alors bien évidemment, devant ça, le gouvernement et, disons, le pouvoir en général, dans sa logique qui lui est propre, c'est la logique de l'ordre public, va chercher à réprimer ces atteintes, ces actes illégaux, et des militants vont être renvoyés en correctionnel.
Alors avant d'entrer de plein pied dans la question juridique que vous nous exposerez, une question peut-être d'abord celle de la morale. Comment cette question-là est-elle résolue par les militants écologistes? Parce que leur action consiste tout de même à détruire des biens qui appartiennent à d'autres personnes, des biens privés, ou à empêcher des gens de circuler.
Oui, alors c'est intéressant parce que justement quand le groupe des décrocheurs s'est constitué autour notamment de l'association Alternatiba. Moi, j'ai eu la chance de défendre un des décrocheurs. On nous a envoyé un certain nombre d'arguments, une liste argumentative, si vous voulez, sur l'urgence climatique et sur l'impérieuse nécessité d'agir dès aujourd'hui, compte tenu des différents rapports du GIEC, etc. Et quand on met ça en regard, c'est la Terre elle-même qui court à sa perte si nous n'agissons pas. Et quand on met ça en regard avec, par exemple, le principe qui est souvent atteint, c'est celui de l'atteinte au bien privé, c'est la propriété privée qui est en cause, eh bien, les militants choisissent cet intérêt supérieur, cette légitimité supérieure qu'est le bien commun versus le bien individuel.
Alors, lorsque ces militants se trouvent face à la justice, et ce fut le cas notamment lors de l'affaire dite des décrocheurs à laquelle vous avez participé, ou en tout cas à l'une d'entre elles, ces militants et leurs avocats recourent à ce qu'on appelle l'état de nécessité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Et est-ce que cet état de nécessité est utile pour faire face à ce type d'affaires?
Oui, alors il est utile dans certains cas et d'autres fois ce d'autres arguments qui sont utilisés. En réalité, ce qui est intéressant dans cette histoire, en tout cas du point de vue du praticien du droit que je suis, c'est que les plaideurs en fait sont allés chercher dans le droit des arguments pour obtenir des relax pour leurs clients, évidemment. Et ça pose la question de savoir si le droit contient les moyens de sa propre subversion en réalité. Et la réponse est oui, en tout cas pour moi, parce que le droit, qui bon est certes un outil de domination pour certains, est aussi et surtout un état du rapport de force, des rapports de force qui traversent la société. Et donc il contient des ambivalences, il est parfois contradictoire, et c'est le juge dans le prétoire qui va être amené à le démêler. Alors, cette ambivalence, elle se retrouve, j'allais dire, dans les deux grands arguments qui ont été déployés, notamment dans le cadre des procès de décrocheurs, c'est l'état de nécessité d'un côté et la liberté d'expression de l'autre. Alors, dans quel cas utiliser l'un et l'autre, c'est à chaque avocat et avocate de s'en saisir. Mais moi, je distingue deux grands types d'actes, si vous voulez, dans les actes de désobéissance civile. C'est d'un côté les actes de dégradation et de neutralisation ou de soustraction des biens privés, et puis de l'autre côté des actes de réappropriation du domaine public. Et en fonction, donc c'est les occupations par exemple, les affichages illégaux, etc. Et donc en fonction de ces actes, hein, puisque je fais partie d'une école juridique qui dit que c'est le fait qui fait le droit, eh bien on va d'abord puiser dans le fait l'argumentaire qui va se traduire juridiquement. Alors pour les actes de dégradation et de neutralisation des biens, c'est les faucheurs de GM, on en a parlé, les crevaisons de pneus, le sabotage de trottinettes par exemple, avec comme exemple type le phénomène de la grève, hein, avec toute l'histoire que ça véhicule. Et donc là, on va passer par la défense de l'état de nécessité, qui est prévu par le code pénal lui-même, c'est l'article 122-7 du code pénal, qui dit que la personne placée devant un danger actuel et imminent qui le menace elle-même ou autrui, va accomplir un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. On retrouve bien cette histoire de balance entre légitimité d'un côté et légalité de l'autre. Alors cet article, en fait, il est quasiment jamais utilisé. Il est intervenu dans notre code pénal à partir de 1994. En référence à un droit prétorien qui s'est développé, alors c'est quelque chose qu'on explique dans les facultés de droit, en référence à l'histoire du bon juge Magnot qui, à la fin du 19e siècle, a relaxé une mère de famille, Louise Ménard, qui avait volé un pain pour son fils. Et donc, la légitimité de son action, le fait de pouvoir nourrir son fils, a justifié qu'elle pose un acte illégal, c'est-à-dire la soustraction du bien d'autrui, en l'espèce, un pain.
En quelques mots, est-ce que ça fonctionne devant les juridictions? Est-ce que les juges sont sensibles à cet argument?
Alors, les juges ont été sensibles à cet argument, en tout cas s'agissant des décrocheurs, puisque il y a eu une décision de relax qui a fait grand bruit à l'époque, hein, à Lyon. C'est une décision du 17 février 2019, alors qui a retenu l'état de nécessité dans le cadre des décrocheurs. en justifiant l'acte posé par les décrocheurs par ce fameux état de nécessité. Alors on a su par ailleurs, à la suite, que le garde des Sceaux avait cherché à connaître l'identité de ce juge et savoir si les décisions qui avaient été prises n'étaient pas contraires à et ne pouvaient pas être sanctionnées. Et puis, malheureusement, ça a été plus ou moins abandonné, puisque cette décision a été cassée devant la Cour de cassation. Mais la Cour de cassation est venue, alors dans le cadre d'une autre affaire, faire intervenir un autre moyen de défense, une autre façon de relaxer les prévenus, par la liberté d'expression. En fait, les condamnés pourraient porter atteinte à leur droit fondamental, à la liberté d'expression, qui passe par l'expression orale, comme on est en train de le faire, ou écrite, mais qui passe aussi par un certain nombre d'actes positifs. Et dans un arrêt de l'année dernière, il y a quasiment un an, exactement un an, le 22 septembre 2021, la Cour de cassation a confirmé la relaxe de prévenus qui avaient soustrait un portrait d'Emmanuel Macron.